Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Donc nous sommes aujourd'hui pour le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand avec Omer Chamir et Marius, c'est bien ça. Donc bonjour à vous, bienvenue.
Merci.
Merci.
Omer, toi tu as réalisé le film « Mille moutons ». Et Théo, Marius, mais tu t'appelles Théo dans le film, t'es un berger qui joue donc dans le film, mais l'originalité c'est que tu joues ton propre rôle, parce que t'es aussi berger dans la vraie vie. Et donc, pour commencer un petit peu, Omer, est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée de ce film et nous raconter un petit peu de quoi il parle ?
Oui, alors Marius et moi, et on est amis depuis très longtemps. Et il y a 5 ou 6 ans, il a commencé de travailler comme un berger saisonnier. Et donc il m'a invité à lui rendre visite dans les Alpes pendant la saison. Et donc je suis allé et j'étais vraiment fasciné. Et pour moi, toujours le cinéma, c'est une manière d'aller chercher où je ne connais pas et explorer. Et c'est comme un... Ouais, j'aime bien quand ça m'amène au lieu où... Et j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et donc, Marius a commencé de me raconter des histoires et sur la montagne, sur la vie des bergers. Et c'est là que j'ai commencé à écrire avec un autre ami à nous qui s'appelle Santiago Zermenio, qui est un réalisateur, et scénariste et monteur mexicain. Et lui a fait aussi le montage du film. Donc, on a co-écrit le film et il a fait le montage. Et voilà, donc c'est un peu c'est un film né par l'amitié et entre nous trois. Et voilà.
Et donc, je voulais justement vous demander comment vous étiez rencontrés. Donc, en fait, vous étiez amis à l'origine et ensuite, vous avez eu l'idée de faire ce film, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Donc... on a attendu quelques histoires et entre eux, c'était l'histoire de... des gens de la campagne qui parfois doivent confronter cette situation de l'euro, ça dépend d'eux en fait, mais de tout et des chiots et des autres animaux en fait. Bah, ça arrive tous les temps en fait, avec la matière bien sûr. Et moi, comme citadienne en fait, qui vient de Tel Aviv et qui habite maintenant à Paris. Et c'était intéressant pour moi de confronter... Moi, je suis un végétarien, en fait. Et donc, la mort des animaux, c'est quelque chose qui est idéologiquement... Et... Ouais, c'est quelque chose que je suis plutôt contre, mais ça fait partie de la vie, en fait. Et donc, et c'était intéressant pour moi d'aller et confronter mes propres idées, comme quelqu'un qui n'est pas dans les contacts quotidiens avec les non-humains, donc avec les animaux, les non-humains, ouais. Et rencontrer des gens qui sont en contact et beaucoup plus proche avec la nature. Et donc, ils et elles ont confronté tous les jours avec la mort. Et donc, c'était intéressant pour moi d'explorer ça, de m'interroger. Et c'est pour ça que j'ai fait le film, en fait, pour me questionner. C'est pas pour des choses que j'ai de la réponse, mais c'est justement pour des choses que j'ai pas les réponses.
Oui, donc vous aviez vraiment envie de montrer une certaine relation entre l'homme et l'animal. Et donc, quelle image un petit peu vous vouliez donner à cette relation ?
Déjà, l'idée que c'est une relation multifacette, ça existe. C'est comme toutes les relations, il y a les biens et les mauvais, la complexité, l'incertitude, et je crois que ce qu'on a cherché aussi, c'est la communication entre eux. C'est le manque de la possibilité de, d'un langage oral déjà, mais bien sûr, il y a un langage, il y a une communication de, des autres façons. Donc, à la fin du film, il y a un regard entre les animaux et les humains. Et on a cherché vraiment ça, qu'est-ce qu'on comprend en fait, c'est une des questions, de, les premières questions de, dans l'humanité, c'est comment on peut se communiquer avec les autres, avec les non-humains, et qu'est-ce qu'eux, ils savent, ils pensent, ils les comprennent, et voilà, donc c'est, c'était vraiment ça, et ben je ne veux pas gâcher le film, mais il y a des moments de mort, et donc justement on se demande si les animaux, comment ils font les chagrins, comment eux ils confrontent la mort et la manque et la et voilà.
Oui, ça montre aussi l'état émotionnel des animaux, tout simplement, qui sont confrontés eux-mêmes à la mort. Et donc, ça parle de ça, mais ça parle aussi avant tout de pastoralisme. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le monde du pastoralisme, et pourquoi t'as voulu faire un film là-dessus ? C'est parce que t'étais amie avec Marius, ou... Enfin, qu'est-ce que tu voulais montrer du pastoralisme ?
Bah, déjà, j'étais étonné d'apprendre qu'en France, existe une culture des jeunes bergers. Ça, la première fois que je suis allé et voir Marius dans les Alpes, et ouais, voilà, j'ai rencontré plein de gens jeunes qui reviennent un peu aux natures. C'est pas toujours des gens qui ont grandi forcément dans cette culture, mais souvent, et oui, il y a des gens de Bruxelles, vraiment de plein de lieux différents qui arrivent, et c'est un peu la réappropriation de ces matières, les contacts avec la nature qu'on a perdu avec le monde industriel, etc. Et donc, voilà, c'était intéressant déjà ces cultures, ces mondes, et après les contacts avec les animaux, les différents animaux qui existent, et j'étais étonné de voir la difficulté des matières, en fait, parce qu'ils n'arrêtent jamais. C'est vraiment une matière assez intense. Et donc, pour raconter une histoire, ça, c'est très fertile, parce qu'il passe plein de choses. Il y a beaucoup de tensions, il y a la montagne, et il y a beaucoup de petits drames et grands drames, et voilà. Donc, quand quelqu'un qui cherche toujours et les drames, les tensions, et l'action. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, et justement parce qu'il est tout seul dans la montagne, et il y a quelques interactions, mais ça aussi m'intéresse, j'aime bien des films aussi qui sont assez silencieux, et qui c'est plutôt les actions des personnages que nous guident dans les récits.
Oui, et donc toi, Marius, comment t'as vécu ce moment où tu devais jouer ton propre rôle ? Est-ce que t'as eu des difficultés ? Est-ce que t'es intervenu aussi un petit peu dans l'histoire du film ? Parce que c'est coécrit, mais est-ce que c'est coécrit avec Marius ?
Bah, en fait, vu que l'écriture s'est faite suite à des récits que j'ai fait, des expériences que j'ai partagées avec Omer et avec Santiago, clairement, c'est inspiré de beaucoup de choses que je leur ai montré, exposé, proposé. Et après, on a fait beaucoup d'allers-retours dans l'écriture de « Tiens, est-ce que ceci, ça marche ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça se passerait comme ça ? Comment est-ce que ça se passerait en vrai ?» De comprendre comment ça fonctionne, les radios, les talkie-walkie, par exemple, qui a des éléments qui est utilisé dans le film, comment ça fonctionne les soins, à quel moment... Enfin, il y avait un souci que ce soit crédible du point de vue du métier et que ce soit pas fantasmé, que ce soit juste
la réalité.
Ouais, que ça représente et que on... enfin, en tout cas moi ça me tenait à cœur que des bergers qui le regarderaient, ils trouveraient aussi leur compte quoi et qu'ils se sentent pas lésés ou d'avoir l'impression d'être romantisés dans leur métier ou de un peu une image d'Épinal comme ça, qui n'est pas du tout vraie par rapport à ce qu'on vit aussi.
Oui, et donc justement, c'est ce que je me suis dit en regardant ce court-métrage, c'est un peu à la frontière entre le documentaire et la fiction finalement. Donc ça, je pense que c'était aussi une volonté pour vous deux de ça, enfin de montrer
oui.
ça. Ouais.
Oui, justement, en fait, là je suis en train de réaliser des documentaires. Et avant, j'ai fait que des courts-métrages de fiction. Mais le plus en plus que je fais des films, je comprends que la réalité, c'est les choses les plus intéressantes, en fait. Et donc, voilà. Donc, je savais de tout début que ce doit être Marius qui joue dedans. Et justement, parce qu'il a toutes les connaissances, le savoir-faire, il a le charisme, charisme, merci. Et c'était clair pour moi qu'il peut jouer un berger, parce qu'il est un berger. Et donc, ça m'a intéressé aussi de marcher sur la frontière entre les fictions et les non-fictions. Faire les spectateurs et se demander même s'ils voient des images, des documentaires, des fictions. En fait, la première fois que j'ai montré le film, c'était à ma famille. Et il y avait quelques cousines et cousins qui ne me croyaient pas que c'était une fiction. En fait, un des cousins est parti de la séance. Il ne pourrait pas, il était vraiment énervé. Et donc, c'est là que je sens aussi un peu de fierté quand quelqu'un pense que c'est un documentaire et c'est que les images qu'on voit, c'est vraiment la réalité. C'est super parce que ça veut dire qu'on croit vraiment qu'on est là dedans l'histoire et c'est crédible. Et donc, en fait, moi, ce que je cherche aussi, c'est de toucher les gens. Quand j'étais jeune et j'ai regardé des films, j'ai pleuré beaucoup. Et donc, c'est ça mais qui m'a amené au cinéma, vouloir aussi toucher les gens. Et je crois que pour toucher, les premières choses, c'est de croire l'histoire que tu vois. Et donc, voilà, dans cette histoire, c'était clair qu'on doit vraiment être crédible. On ne pourrait pas amener juste des comédiens de n'importe où pour jouer des bergers.
Oui, et pour affirmer cette crédibilité, en fait, rien de mieux que de prendre un vrai berger pour jouer le berger, finalement. Et donc, je vous propose de faire une petite pause musicale avec la musique La Dispute. Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la musique La Dispute de Yann Tiersen, qui illustre justement un petit peu la solitude que peut ressentir un berger et qui montre la difficulté de ce métier. Oui, est-ce que tu peux un peu nous illustrer, Marius, toi qui es berger, les difficultés que tu rencontres au quotidien dans ce métier ?
La difficulté la plus grosse que je rencontre dans le quotidien dans ce métier, c'est le rapport aux éleveurs et aux salariés. C'est de travailler le double d'heures que je suis payé, de ne pas avoir la possibilité de me reposer un jour par semaine, de pas me sentir reconnu dans l'investissement que j'ai, de dresser mes chiens, ça demande tellement de choses que tu construis ta vie un peu autour de ça. En tout cas, ça prend beaucoup de place. Tu vis dans une précarité qui est quand même très forte. Et t'as pas trop de reconnaissance de ça, de personne, en fait, souvent, je pense.
Ouais. On abordera justement après cette relation entre berger et éleveur. Et il y avait, je me demande si c'est pas l'autrice Edith Chazelle qui a dit dans une interview pour France Culture qu'en fait être berger c'est un mode de vie et pas un métier. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses de ça ?
À partir du moment où on vit dans une société capitaliste où on a besoin d'argent pour manger, je pense qu'on peut pas trop se permettre de détacher l'image et ouais, ce qu'on se représente que c'est et les motivations profondes de la satisfaction qu'on trouve de vivre dans les montagnes, de vivre avec les bêtes, du rapport à l'animal, etc., qui donne beaucoup de sens du fait de pouvoir en fait construire une vie dedans, de pouvoir s'imaginer vieillir dedans, de pouvoir s'imaginer fonder une famille dedans, d'avoir des relations sociales dedans, etc. Et du coup, je suis pas trop d'accord de présenter les choses comme ça.
Oui. Pour en venir à cette relation entre le berger et l'éleveur, donc je vais lire un petit extrait du livre d'Edith Chazelle et de Coralie Mounet qui s'appelle Habiter avec les loups, récit d'enquête en Belledonne. Les relations entre berger et éleveur ne sont par ailleurs pas si évidentes et ne sont pas forcément le lieu de solidarité entre corps et métier. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux dire sur cette solidarité qu'il y a ou qu'il n'y a pas entre les bergers et les éleveurs ?
Le truc, c'est qu'il y a une majorité des éleveurs qui ne connaissent pas vraiment le métier de berger, qui est vraiment la garde en libre, la vie à la montagne, etc. La plupart n'en ont pas vraiment fait l'expérience. Et ils ont des référentiels qui sont de leurs grands-parents ou de leurs parents qui éventuellement montaient parfois à la montagne à l'époque où il n'y avait pas le loup et qui du coup laissaient souvent les troupeaux libres, ne devaient pas les garder à la journée, n'avaient pas du tout la même charge de travail et eux-mêmes qui vivaient dans une structure familiale qui constitue en fait un acquis de confort matériel que quand à la fin de ta journée tu redescends chez toi, t'as une femme ou une famille qui t'a fait à manger, qui s'est occupée de ta vie, etc. Alors que là, quand t'es tout seul à la montagne, tu dois encore t'occuper de tout ça après. On peut encore régulièrement avoir des références de « Ah, moi, mon grand-père, il dormait sous les cailloux. » Et vous en demandez trop, alors que on veut juste avoir de l'eau pour pouvoir se laver quand on a fait des soins, quoi. Donc, ce qui sont des choses assez basiques. Le référentiel, il reste souvent, on dit... avant les bergers, on leur donnait du vin et du fromage, et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait pas de truc de salaire ou de trucs comme ça. Donc on arrive de très loin, et cette représentation-là, elle est très ancrée. Et du coup, je pense que c'est difficile pour les éleveurs de considérer que les bergers ne sont pas juste quelqu'un qui travaille pour eux, mais que c'est quelqu'un qui travaille avec eux, et qui en fait a la responsabilité de leur troupeau, donc la raison d'être de leur exploitation, pour laquelle ils touchent des dizaines, voire des fois des centaines de milliers d'euros de primes. On en a la responsabilité pendant 4-5 mois, donc un gros tiers de l'année. Et en fait, nous, on vit dans des vieilles voitures et on est nomades. Souvent, on n'a pas la possibilité d'avoir des logements fixes ou bien c'est précaire dans des colocs ou dans des trucs difficiles. Et puis, en fait, on a des chiens avec nous. Donc, en fait, ça complexifie beaucoup de la vie une fois qu'on redescend de la montagne. Et en fait, on n'a pas de capital qui s'accumule alors qu'eux, ils ont des fermes dans lesquelles ils investissent. Donc, on a des rapports au territoire et à la propriété qui est très différente. Et clairement, l'argent qu'ils nous donnent à eux, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas pour eux pour s'acheter des nouveaux véhicules, s'acheter un tracteur, etc. Mais moi, j'aime souvent quand on me parle d'images de comment ça se passait avant, etc., de leur renvoyer que, en fait, ce même père qui dormait sous les cailloux, peut-être, il faisait les foins à la faux. Et aujourd'hui, ils sont assis sur des tracteurs à 100 000 euros et qui fauchent et qui font le foin, quoi. Donc les réalités, elles ont bien changé dans les vallées et ils en profitent bien. Et en fait, il n'y a pas de raison que ça ne change pas dans les montagnes et qu'on n'ait pas de l'eau chaude, en fait.
Donc un réel manque de connaissances, de reconnaissance, pardon.
Bah, je pense les deux. En fait, c'est un lapsus qui est intéressant. Je pense que c'est un manque de connaissances parce que de monter une fois à la montagne, de dire « Ah, c'est joli, etc. T'as de la chance de vivre là et en plus d'être payé pour y être. » Quand tu le fais quelques mois d'affilée, tu te rends compte qu'en fait,
la montagne est dure.
Tu sacrifies une partie de ton corps, de ta santé, de ta vie, de ta vie sociale, etc. pour être là. Et évidemment, il y a plein de choses qui sont très belles, mais en fait, ça remplace pas. Donc, il faut que ça puisse être envisagé sur le long terme. Et, ouais.
Et donc, toi, ça fait combien de temps que t'es berger, là ?
Ça fait 6 ans.
6 ans, ok. Et pour avant, je suis plus sûre par rapport. Je reviens sur ma citation parce que ça me travaille. par rapport à berger, c'est un mode de vie et pas un métier. Il me semble que c'était plutôt ce qu'elle avait dit. C'est davantage un mode de vie qu'un métier. Je suis plus sûre
j'imagine
la petite subtilité, mais en tout cas oui, enfin c'est plutôt ça quoi.
Mais j'imagine que ça vient du fait que en fait oui, ça réclame beaucoup de choses dans ta vie. Juste le fait de vivre avec un et souvent plusieurs chiens, en fait là je suis au festival de films de Clermont-Ferrand, j'ai mes chiens, ils sont dans la voiture, je dois aller les promener, c'est toute une logistique, je te les ai toujours en tête, et en fait ça fait que tu peux pas vivre de la même manière, et c'est ok, j'aime mes chiens et j'aime la relation que j'ai avec eux, mais en fait
jamais de congé finalement.
Si on pouvait avoir si je pouvais avoir quelque part une maison avec un jardin et les laisser là, ça serait super, mais sauf que tel que on est reconnu et valorisé dans notre métier, en fait c'est même pas envisageable.
Et donc, toi, Marius, dans cette relation entre berger et éleveur, est-ce que tu vois des voies d'amélioration un petit peu dans le futur ?
Eh bien, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on a monté un syndicat de gardiens, gardiennes de troupeaux, même deux, au niveau de l'arc alpin. Il y en a un pour le nord des Alpes et un pour le sud des Alpes. Il y en a aussi dans les Pyrénées. Et c'est un des axes par lequel on tente de en tout cas faire entendre nos voix, et y a des négociations qui sont en cours justement pour reconnaître les particularités du métier, reconnaître le nombre d'heures qu'on fait, reconnaître la connaissance qu'on a et le temps, l'investissement, que ce soit au niveau des chiens. Aussi un gros sujet, c'est nos équipements qui sont pas pris en compte, qui sont tout à nos frais. Et du coup, avec ce syndicat, on milite à différents endroits, que ce soit dans des commissions paritaires au niveau des départements et au niveau national. Du coup, on négocie avec la FNSEA pour avoir des avenants pour les bergers et les bergères. Et en même temps, pour le moment, on se rend bien compte que en fait, plus on essaye de pousser pour leur dire « regardez ce qui se passe », de temps en temps, il y en a un ou l'autre, un peu presque en aparté, qui admet la situation et qui dit « nous, on aimerait bien avoir des bergers fiables qui vont rester dans le temps, etc. » Et en même temps, quand il s'agit de mettre un peu la main au portefeuille et de se dire bah ok, bah permettez-nous de nous professionnaliser, etc. Et là, les portes se ferment très très vite. Et du coup, là, ça fait presque 6 mois que les négociations sont systématiquement annulées par la FNSEA. Donc, là, notre stratégie, ça va être d'augmenter le rapport de force et de faire des mobilisations. Comme il y en a eu au mois de janvier, il y en a eu 2, une en Isère, une en Savoie, parce que les négociations qui avaient abouti à un accord de principe sur une prime d'équipement ont été désertés, ils pédalent, ils font machine arrière pour dire « Ah non, finalement, on ne va plus négocier au niveau départemental, mais au niveau régional, ça vous dit, comme ça, ce sera pour plus de bergers. » Et en fait, parce qu'ils ne veulent pas signer ce qu'ils ont accepté verbalement. Donc on est un peu dans des situations assez lunaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher s'il y a des gens qui entendent et qui ont envie d'en savoir plus des syndicats de gardiens et de gardiennes de troupeaux, les SGT, CGT.
Oui, donc une vraie volonté de reconnaissance du métier de berger et d'éviter l'amalgame entre guillemets entre berger et éleveur.
En fait, c'est la base pour avoir un peu des droits, c'est d'être reconnu comme un corps de métier en soi. Et du coup, oui, c'est nécessaire de sortir de cet amalgame-là. Après, il y a des éleveurs bergers, mais la plupart des bergers qu'on croise en montagne, etc., sont salariés, ne sont pas propriétaires de leurs troupeaux. Et une fois l'estive terminée, sont remerciés et vont soit vendre leur force de travail ailleurs, soit faire autre chose de leur temps.
Ouais. Et donc, pour en revenir un petit peu au film, il y a quand même une grosse question dans le pastoralisme qui est celle du loup. Et vous avez choisi de ne pas la mentionner dans le film. Donc, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix?
Justement, en fait, c'était un choix plutôt économique et pratique parce qu'on avait des scènes de loups et dans les scénarios jusqu'à presque le tournage, mais on a compris qu'on n'a pas assez d'argent ni le temps de tourner parce que c'est des scènes assez compliquées de faire. Et donc, on a effacé les scènes avec les loups vraiment quelques jours avant le tournage. Et donc, justement, je voulais montrer aussi les plusieurs éléments qui existent là dans la montagne, donc sûrement les loups, ça fait partie, et l'histoire que Marius nous a racontée, et il y avait des loups toujours, et les autres entretiens avec des bergers qui j'ai fait, et voilà, tout le monde parle des loups justement, voilà, donc c'est vraiment pour des choses pratiques que j'aurais aimé, mais finalement on fait un court métrage et avec des moyens assez limités et donc on pourra pas tout raconter.
Et Marius, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, après j'ai l'impression que dans le scénario tel qu'il avait été écrit quand il y avait ces scènes, etc., c'était pour rajouter un peu la charge de travail et toutes les différentes situations que le berger peut rencontrer dans les difficultés qu'il a et l'épuisement que ça emmène, etc. Et au final, je trouve que le résultat du film, il marche assez bien dans ce côté épuré, où il y a des éléments qui ont été retirés. Et je trouve que d'un côté, il a ce côté documentaire qu'on disait tout à l'heure, mais il a aussi un peu ce côté fable d'être un univers assez circonscrit avec une certaine simplicité, un certain épurement, et notamment beaucoup la rivière, beaucoup certains éléments qui reviennent et qui, je pense, participe à faire que le film est très lisible et très touchant, alors que je pense que, a posteriori, je pense que si on avait le loup, si on avait plus d'éléments, ça aurait pu aussi être un peu plus brouillon.
Trop d'informés, oui.
En tout cas, perdre cette qualité qui vient ajouter à la solitude, qui avait ajouté à un truc, je pense, pour l'audience.
Mais ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans ce film, c'est justement de ne pas l'aborder, parce que finalement, on voit aussi d'autres perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé, comme on a parlé avant, la relation finalement entre berger et éleveur, ou même les conflits sur le territoire simplement entre les différents troupeaux. Parce que, enfin, y a un moment dans le film où on voit qu'il y a les moutons qui se mélangent à un autre troupeau. Donc, c'est des questions finalement qu'on n'entend pas souvent et c'est intéressant de les avoir mentionnés quoi, dans ce film. Et donc, petite question anecdotique plutôt, c'est quoi votre meilleur souvenir de tournage à vous deux ?
En fait, j'ai pas une mémoire,
une mémoire.
J'ai pas une mémoire spécifique, mais moi je dirais que je me souviens très bien les moments que on est arrivé, on a commencé de monter la montagne, parce qu'en fait on était 17 personnes à faire ce film, et on a dormi à côté de la cabane et dans des tentes. Et on était 14 à côté de la cabane et on avait 3 régies et assistants caméra qui a fait aller-retour, parce qu'en fait on a fait le tournage sans électricité, sans douche, sans, et sans nos cuisines pour cuisiner pour autant de personnes. Et en fait c'est la mère de Marius qui était dans le village à côté qui nous a cuisiné, et les régies qui a fait aller-retour pour charger les batteries des caméras, pour amener la nourriture, et nous on était là pour une semaine et tous et toutes ensemble. Et donc je me souviens des moments qu'on a commencé à démonter avec tous les matériels et toutes les affaires personnelles pour une semaine, et en plus tous les matériels pour faire un film. On a essayé d'être pas trop lourd, mais quand même il y a pas mal de choses à amener, et c'était, j'ai envie d'une petite vidéo dans laquelle on marche et tous les groupes ensemble, et c'était pour moi très émouvant d'avoir toute l'équipe et ensemble dans ces moments précieux, et que tout le monde a engagé vraiment pour être là et sans bouger, et vraiment vivre la vie justement de berger, de la solitude de la montagne. Il n'y a presque pas de réseau pour faire des appels téléphoniques. Et donc voilà, on était, pour un réalisateur, c'est les rêves en fait. Pas de téléphone, tout le monde est sur les plateaux toujours, on peut toujours tourner, on peut toujours dire ok, action. Et donc c'est vraiment tout le monde 100% ensemble. Et c'était vraiment une expérience et magie.
Parce que du coup, pendant une semaine, je suppose que vous avez dormi avec Marius, finalement, dans la montagne.
Oui, voilà, tout à fait. Donc, on a dormi en tente là-bas, juste à côté de la cabane, et à côté des moutons, vraiment entre les moutons et la cabane, avec les chiens, Ouais, on avait un peu de pluie, mais sinon ça allait, on était là pour 7 jours. Ouais, c'était assez intense et vraiment beau comme expérience.
Ouais, intense, et intense, ça devait l'être encore plus pour toi, Marius, parce que je suppose que tu as dû t'occuper, faire ton métier de berger et en même temps jouer pour le film. Donc,
Du coup, pour le film, on avait plusieurs bergers qui étaient présents. Moi du coup à ce moment là je n'étais pas officiellement berger, j'avais pas officiellement la responsabilité du troupeau. Il y avait plusieurs bergers qui étaient là et pour faire que le troupeau mange et sa vie plus ou moins normale, et aussi pour sur les scènes, pour que le troupeau soit au bon endroit, le guider, etc. Du coup j'avais ça comme casquette, un peu, j'avais comme casquette d'accompagner ma chienne en fait, qui est un personnage central et très présent dans le film, et du coup de faire directeur acteur canin quelque part, et aussi de jouer moi-même du coup le rôle, et des fois les deux en parallèle. Donc ça faisait beaucoup de choses différentes, et aussi c'était mon territoire, c'est moi qui connaissais les gens du coin, c'est moi qui connaissais les éleveurs, c'est moi qui connaissais les autres bergers. Donc enfin, dès qu'il y avait un certain problème logistique, je ne pouvais pas m'empêcher que de me dire « Attendez, j'ai une solution simple, on peut appeler cette personne-là, etc. » Et en même temps, je connaissais pas trop. C'était du coup la première fois que je faisais le rôle d'être acteur. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, en fait, de concentration, de se mettre dans la bulle du personnage, de vraiment s'immerger dans « Ok, pendant 5 jours, je mets mon corps, mes émotions, mes expériences de vie, ma sensibilité au service d'une histoire qui n'est pas la mienne, au service d'un rapport au monde qui n'est pas le mien, même si ça reste un berger. Ce berger qui est Théo dans le film n'a pas les mêmes réactions que moi, n'est pas au même endroit dans sa vie. Et en fait, pour que ça marche, et que ça marche à l'écran, pour la caméra, etc., moi, je n'avais pas spécialement technique de tout ça, mais en tout cas, je l'ai pris de cette manière-là. On avait un peu discuté et tout ça, mais clairement, on n'avait pas eu beaucoup, beaucoup de travail d'acteur. C'était de le vivre et de me mettre dedans. Et du coup, je pense que je vivais des choses très fortes émotionnellement, en fait, en parallèle. Il y avait une communauté de gens qui étaient autour de moi et qui me soutenaient, en fait, au final. Tous les gens du plateau. Et du coup, quand tu parles de moments, au final, j'ai l'impression d'être un peu égoïste parce que je vois tout ce truc-là autour, mais je pense des moments où je vais dans la rivière et qui sont en fait hyper intenses. La rivière, elle fait 3 degrés, je dois m'y immerger pendant longtemps et on l'a tourné plusieurs fois d'affilée et je dois moi-même vraiment avoir un regard intérieur sur le froid, comment je le gère, comment je vais être capable de le refaire. Et en fait, c'est quoi le processus de Théo et pourquoi il y va, qu'est-ce qu'il va y chercher. Et faire que ça ait du sens, quoi. Enfin, j'espère que ça en a au final, mais en tout cas, du coup, une expérience assez intense, autant à cet endroit personnel que d'être en lien avec plein de choses et de ramener en fait plein d'amis dans ce monde-là. Et c'est pas une anecdote, du coup, j'ai pas trop répondu à ta question, mais voilà.
Mais c'est très bien. Mais c'est intéressant parce que finalement, depuis avant, on dit que tu jouais ton propre rôle, mais finalement, t'as aussi dû te mettre un peu dans un autre rôle et jouer faire un travail d'acteur, quoi.
Ouais, c'est une fiction. Et les émotions que je vis, c'est pas les miennes. Et pourtant, c'est marrant, encore là, du coup, c'était il y a un an et demi. Et à chaque fois qu'on en reparle, il y a eu d'autres moments d'interview, trucs comme ça. Je le ressens, en fait. Je ressens ces émotions, je ressens ces moments comme si c'était un peu des mémoires à moi. C'est intéressant.
T'es un vrai acteur.
Du coup, les acteurs qui ont fait 1000 films, ils doivent, ça doit être dur.
Oui, c'est... Tu deviens un peu schizophrénique, je crois.
Bon, on va y aller doucement, alors on va faire un film à la fois.
Quand le prochain rôle? C'est la question. Et donc, ta chienne, elle a réellement mis bas, je suppose, pendant le film. Non?
Non, elle n'a pas mis bas pendant le film, c'est une doublure.
Oui, ouais, donc... Parce que je me suis dit, ça demandait une sacrée logistique. Je me suis dit, comment ils ont fait pour que l'équipe du film soit au moment de l'accouchement de la chienne sur place? Ok.
Oui, donc encore la magie des films. Et on a tourné et les moments d'accouchement des chiots 2 mois plus tard. En fait, je tournais tout seul. J'ai contacté des éleveurs de chiens qui sont des éleveurs de chiens, des border collies. Et donc, ça a pris un peu de temps de trouver un border collie qui ressemble justement à Potty, la chienne dans le film. Et je suis allé et quelques jours avant l'accouchement, et j'ai dormi chez la famille et aux Pyrénées, qui était très très gentil. D'ailleurs, je dois, s'il m'écoute maintenant, merci. Et donc, c'était vraiment sympa. Et j'ai été là avec les caméras, avec le matériel, avec les éléments décor pour justement ressembler et qu'on était dans la montagne. Et j'ai tourné, j'ai attendu jusqu'à le moment que l'accouchement arrive. Et j'ai tourné le moment de l'accouchement et après dans le montage, on a coupé dans les manières qui fait que les gens en fait pensent qu'on voit des accouchements dès la chienne sur le plateau. Mais c'est une doubleuse, oui.
Bien joué, c'était bien réussi. Et aussi, toi, tu as dû faire un travail d'éducation. Enfin, d'éducation, ça a dû être dur. Parce que y a ta chienne, à un moment, on voit vraiment qu'elle ressent des émotions et c'est vraiment bien fait. Ça t'a mis combien de temps de pouvoir lui faire ça?
Je pense que tu penses à la scène un peu sous le caillou, là, quand je la cherche, tout ça.
Celle où elle renifle dans le panier.
Ouais. Celle sur le caillou, je suis un peu bluffé moi-même. Je sais pas très bien comment on a fait pour avoir cette image là et qu'elle ait cette expression là, etc. Parce que je pense que du coup, on n'a pas fait d'exercice très longtemps à l'avance ou de lui apprendre vraiment des comportements spécifiques pour le film. On a plus regardé comment elle réagissait à des stimuli qu'elle avait déjà dans les ordres que moi j'ai déjà au travail, etc. Et de voir comment on pouvait utiliser, appuyer un peu certains d'entre eux, etc. Concrètement, bah, ça s'est joué, enfin, du coup, c'est un peu des anecdotes un peu techniques. Et ce moment-là, où, en fait, c'est un plan qui est assez long, un plan séquence, où je la cherche et elle a disparu. Et en fait, je l'appelle partout dans la montagne. Et du coup, là, on a fait un petit trick de... moi, je lui avais dit avant de rester où elle était, etc. Et je lui avais... Il y a un habit, un tissu qui accompagne, en fait, cette scène. Et elle a ce truc-là de je lui mets un habit quelque part... Ça peut être dans une fête, ça peut être un endroit. Elle sait que c'est son point de référence et où elle va rester et où elle va m'attendre et où je vais revenir. Ou si je rentre dans un magasin ou quelque chose où je dois la laisser quelque part, c'est quelque chose qu'elle a en fait. Comportement, attitude, ordre. Et en fait, là, il fallait rajouter le truc que bah, je tourne en rond, je l'appelle, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé au niveau du son. J'appelais un autre nom et puis on a réenregistré séparément le son, et puis au fait au montage j'appelais pas son nom, donc je pense qu'elle était un peu confuse, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe, mais elle était pas directement concernée parce que c'était pas son nom que j'appelais.
Ok, parce du coup son vrai nom c'est pas Poti.
Son vrai nom c'est Poti. Mais en fait le son a été monté et au moment où je tourne dans l'espace et que je crie à la recherche de Poti, en fait je sais plus, je crie autre chose, je dis...
je me souviens même pas.
Cherché un truc qui dans les sons ressemblait pas à Poti, mais qui du coup faisait plus ou moins des mouvements de lèvres qui après pourraient facilement être remontés avec le mot Poti et que en fait personne n'y verrait rien.
Waouh.
Donc ça pour le, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et après bah ouais, le rapport un peu pour qu'elle lèche les chiots, etc. Des trucs on a essayé différents trucs alimentaires. Comment est-ce qu'elle lèche si on met de l'huile? Comment est-ce qu'elle lèche si on met du jaune d'œuf? Comment est-ce qu'elle lèche si on met de la crème? Et du coup, de voir quelle attitude ça développait pour elle. Mais après, moi, je la connais tellement bien que bah, c'est sûr que je vois bien qu'en fait, à un moment donné, quand elle va renifler le panier, etc., son intérêt, il est culinaire. Enfin, il est... Du coup, ça, c'est... Bah, ça, c'est... Mais plutôt, les gens disent que ça marche, donc c'est cool, c'est très bien. C'est OK, ça reste du cinéma et c'est normal que moi qui vis avec elle, je vois que son attitude, en fait, elle n'est pas exactement...
Ça montre une belle relation du berger et de son chien, finalement. Cette émission, elle va bientôt toucher à sa fin. Est-ce que toi, Omer, tu as d'autres projets, là, de courts-métrages?
Des courts, non, mais des longues, oui. Et en fait, je vais réaliser un film sur un photographe gazaoui qui est échappé de Gaza et quelques mois après le début de la guerre, le génocide on peut dire. Et donc le film il va prendre place au Caire, en Égypte, et pendant ces moments très douloureux dans lesquels il devient un réfugié. Mais c'est un photojournaliste incroyable, connu, avec des millions de suivis et sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et voilà, ça parle de la guerre, et des génocides, des catastrophes dans lesquelles on se trouve en ce moment, dans ce monde. Et moi, je suis juif de la Palestine, et je viens de Tel Aviv, donc... Voilà, c'est un projet qui est vraiment très proche
au niveau émotionnel à moi.
Merci à vous de nous avoir invités. Et c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment. Et ce sera un long métrage. Et j'espère que vous pourriez le voir bientôt. Et voilà.
Est-ce que tu as déjà tourné quelques plans pour ce long métrage ou pas du tout?
J'ai fait des repérages et j'ai fait beaucoup de repérages. J'ai passé beaucoup de temps avec des réfugiés gazaouis et en Égypte. Donc plusieurs mois. Là, je viens de rentrer d'un mois avec eux Et voilà, ils sont vraiment touchés. Toutes les familles élargies sont en Gaza, là, et avec le début de les cessez le feu et les familles éloignées justement des photographes que je suis. Et eux, ils ont rentré au nord de la bande de Gaza, et parce qu'ils ont déplacé au début de la guerre au sud de la bande de Gaza. Et là, ils ont rentré au nord pour trouver que tout est détruit. Donc maintenant, ils habitent dans des tentes à côté de leur maison détruite. Et ouais, il y a vraiment rien là. On a vu il y a quelques jours, Trump qui lui-même a dit que la vie là-bas est pas possible. Et bon, après, il a commencé à dire des bêtises absurdes et horrifiques. Mais au moins, il a reconnu, merci, il a reconnu le fait de la génocide et le fait qu'Israël a fait des crimes de guerre et qui on a pas vu depuis des décennies, en fait, depuis très longtemps, on n'a pas vu les types de destruction, de la mort qu'on voit maintenant à Gaza. Ça va prendre très longtemps pour encore trouver tous les gens qui sont encore pas trouvés. Donc on est plus que 50 000 personnes tuées, mais certainement encore des dizaines et plus qui sont pas encore trouvés entre les bâtiments détruits, et avec vers 200 000 blessés. Donc on a des quantités incompréhensibles, et c'est vraiment... Voilà, donc moi je suis vraiment dans ces moments et vraiment plongé dans ces moments horribles. Et donc ça fait aussi du bien de parler un peu des moutons, de la montagne, des Alpes françaises. Clermont-Ferrand ici, c'est vraiment dehors de ma vie actuelle, quotidienne, en ce moment dans lequel je suis vraiment, et je passe tout le temps avec des réfugiés gazaouis. Donc c'est bien aussi un moment à prendre pour parler de la nature, et même que comme le film aussi justement il y a la vie et la mort, et je vois aussi des connexions en fait entre le film et le court métrage Mille Moutons qu'on a fait et la relation entre humains et non-humains. Et voilà, je peux continuer à parler.
Mais c'est qu'en fait, le film, il a beaucoup posé la question de la responsabilité et de comment on vit en fait avec les choix qui sont faits. Et je pense que ça, c'est large. Et à ce moment-là, oui, c'est un peu englobé une relation à l'actualité, en fait, que ce soit par des choix ou des non-choix, en fait, on fait partie d'une société qui fait des choses dans le monde et qui perpétue des choses plus ou moins en notre nom, ou bien on laisse plus ou moins, on décide plus ou moins de le regarder ou pas. Et en fait, c'est toute la question de qu'est-ce qui se passe quand on le regarde, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment, et du coup de pouvoir regarder les choses pour pouvoir agir dessus et choisir, en fait. Et si on ne regarde pas les choses, en fait, on n'a pas la possibilité. Pour moi, en fait, le film, il est là, on regarde quelque chose de dur, mais du coup, de là, il y a un choix qui peut être fait. Et en fait, si tu ne le regardes pas, il n'y a même pas encore de choix qui est possible.
Observer pour devenir acteur, finalement. Et ben, merci beaucoup. Cette émission, elle touche à sa fin. Merci pour votre temps. Je ne sais pas si vous vouliez encore rajouter quelque chose. Ou...
Non, merci à vous de nous avoir
invités. Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.